Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, Zone artistique temporaire, et Transat, Programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables mais aussi plus vivantes et vibrantes. La première rencontre, demain l'espace public hospitalier, a eu lieu le mardi 13 septembre 2022 avec Chantal Decmine, architecte urbaniste, auteur d'un manuel pour une hospitalité de l'espace public, et Mathilde Tournol-Duclos, architecte pour le projet singulier mené dans l'ancienne gare de Lunel. Le livre de Chantal Decmine, Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public, est une référence. C'est un point de vue radical qui vient secouer tous ceux qui font la ville. Pourquoi ? Parce qu'elle prétend que nos villes, qu'on croit conviviales, bien organisées pour le vivre ensemble, ont en fait perdu leur hospitalité. Qu'elles nous rendent indifférents à l'autre. Spécialiste de l'espace public, elle a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle des projets modestes. Écoutons le point de vue libre et singulier de cet architecte urbaniste.
Ce que j'appelle la ville, c'est la ville telle qu'elle a duré pendant très très longtemps, jusqu'à il y a 70 ans. C'est-à-dire que la ville, c'est une forme, et dans cette forme, on a des espaces publics et des espaces privés. Les espaces publics sont en creux des espaces privés, et les espaces publics sont la contre-forme des espaces privés. Voilà. Et c'est une trame qui tient l'ensemble de l'agglomération. On peut traverser toute l'agglomération dans tous les sens, prendre un chemin, prendre un autre, etc. Et à partir des années 50, sur des préconisations qui sont de l'ordre de la gestion, de la statistique, de la rationalisation, on a commencé à faire cahier l'espace urbain et à particulariser des zones qui sont uniquement du logement, uniquement de l'activité, uniquement du commerce, uniquement du loisir, etc. Et dans ces zones-là, on ne peut plus appeler ça de la ville. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la complexité vivante qu'on a jusque-là dans la ville. On ne peut plus, il n'y a plus d'espace public tout simplement à l'intérieur de ces zones-là. Or, la ville, c'est typiquement la négociation entre intérêt privé et intérêt public, entre espace privé et espace public. Dans la ville, l'intérêt public l'emporte toujours parce que la rue passe entre les espaces privés. Par exemple, la charte d'Athènes explique très bien comment on ne peut plus avoir toute cette mixité dans la ville. Il faut être rationnel et définir des fonctions, séparer ses fonctions et séparer les lieux de ses fonctions. Donc à ce moment-là, à partir de là, ça devient une affaire de gestion des espaces et des gens. Et on se base sur des statistiques. Après la guerre, on est entré dans une façon d'administrer les choses. C'est l'administration qui l'emporte surtout. On n'habite plus, on est logé. On compte les logements. Voilà. Et on est dans une façon d'administrer la vie des gens qui a complètement changé à ce moment-là. Sur la question écologique, on a mis très 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 longtemps à admettre qu'on faisait fausse route. Et c'est uniquement quand vraiment on a le nez dedans parce qu'il fait trop chaud que petit à petit une conscience émerge, arrive jusqu'à peut-être l'esprit des politiques, mais on ne peut pas dire que les réactions et les prises de décision soient à la bonne hauteur. Moi, je n'ai jamais vu une manifestation sur la disparition de la ville. On a vu des manifs sur la question écologique et sur le climat. Je n'ai jamais vu une manifestation sur la ville. Et même si des observateurs très attentifs, des chercheurs, des sociologues, des architectes, enfin, nombre de gens ont dit qu'on allait à la catastrophe avec cette forme de ville telle qu'on la pense depuis 70 ans. Je veux dire, le constat est fait, il a été fait par la police dès le début en disant ce sont des endroits, alors eux ils se trompaient, ils pensaient que ça pouvait causer la délinquance. Non, ce sont des conditions dans lesquelles la loi n'est plus explicite, l'espace public ne l'emporte plus, la loi de la République ne l'emporte plus, et on loge des gens dans des conditions indécentes du point de vue social, peut-être pas du point de vue social et politique, peut-être pas du point de vue matériel, c'est pas des logements indécents, au contraire, on a été content d'avoir du confort, mais c'est de la ville indécente, enfin ce n'est pas des vraies conditions de vie, et les gens sont bien gentils d'accepter de vivre dans des espaces pareils. Chaque fois qu'on constate que ça ne va pas, on met en place une politique. Bon, par exemple, il y a eu des années 70, on a commencé avec les habitats vie sociale à mettre en place, c'est devenu ensuite la politique de la ville. On noterait la langue de bois. On dit politique de la ville à partir du moment où il n'y a plus de ville, on dit les quartiers quand ce ne sont justement pas des quartiers, et c'est avec des concepts qui ont été ceux qui ont prévalu pour amener cette forme-là d'urbanisme qu'on va essayer de le corriger. Ce n'est pas pensable. Ce qui m'a toujours complètement sidérée dans les comités de pilotage, dans tous les lieux de décision auxquels j'ai pu assister ou participer, c'est le hiatus invraisemblable qu'il y a entre la pensée des chercheurs, des sociologues, etc. On sait ce qu'il en est. Je veux dire, il y a nombre de gens qui ont expliqué ce qui est en train de se passer. Et les décisions politiques prises n'ont rien à voir. Elles sont au jour le jour, de façon électoraliste, par rapport à tel hypermarché qui va s'installer et dont on pense que, mon Dieu, il va peut-être amener des emplois, mais quels emplois en plus, alors qu'après, on s'étonne que le centre-ville est en train de perdre tous ses commerces. Voilà. Je veux dire, si on veut pas aux élus, simplement, il y a un hiatus complet entre les parts de décision et la pensée sur la ville qui existe quand même. Partir du mouvement naturel et de ce qu'il y a, c'est quand même le plus économe, le plus logique et le plus simple. Voilà. Simplement, ça n'entre pas dans les procédures administratives ni dans les recherches de profit des grands groupes qui, en fait, prennent beaucoup les décisions à la place de nos élus quand même. On a des éclaireurs, on a des gens comme Lucien Kroll qui œuvrait, lui, plus que 45 ans. Il est mort à 95 ans il y a un mois. Il a œuvré toute sa vie dans ce sens-là. Il s'est pris des vagues de 40 mètres de haut dans la figure, mais il a démontré que c'était possible. Il a démontré qu'on pouvait ne pas démolir des quartiers entiers d'immeubles rationalistes, là, et brutalistes, en les reprenant avec les habitants, avec la logique des lieux, avec des logiques différentes de ce qui avait amené ça, et qu'on pouvait, il disait, je démolis un peu, je remolis un peu. Voilà. Donc lui, il a montré. Il y a Jaime Lerner à Curitiba au Brésil, qui a été maire de sa ville pendant au moins 10 ans, qui est un architecte, et qui a fait des choses extraordinaires dans sa ville. Je pense même que la Chine est en train de se rendre compte, alors qu'ils ont fait des kilomètres carrés de zones et beaucoup détruits, ils ont pris conscience, il y a un retournement, ils ont pris conscience de l'importance du territoire et de l'importance de la construction traditionnelle, il faut le faire. Voilà. Il y a Françoise Jeanne qui a écrit un ouvrage très très intéressant là-dessus, sur tout ce qui relie la construction au développement durable en Chine. Je suis contre le fatalisme, voilà. Je pense que ça nous aide à le cynisme. Je pense que ça nous aide à baisser les bras et à lâcher l'affaire. Et je pense qu'il faut trouver les chemins, les voies d'issue pour avancer différemment de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait ce manuel, pour dire que sur chacun de ces sujets très concrets et matériels, il y avait d'autres façons de faire qui étaient logiques, économes, simples et qui pouvaient être pensées. Je parlerai surtout pas d'utopie. Hein. Je crois que la ville a surtout pas besoin d'utopie. Parce que l'utopie, c'est mettre les choses à l'envers. C'est penser qu'on va changer la forme de la société à partir de la forme urbaine. Or, la société produit la forme urbaine et on peut pas changer les causes en travaillant les conséquences, ni les conditions en travaillant les conséquences. Moi, ce que j'ai compris à Boulogne-sur-Mer, c'est que, alors que l'ANRU proposait à Patrick Bouchain de démolir cet endroit parce que c'était un quartier de fin des choses, quoi, extrêmement pauvre, avec une population très découpée du reste de la population, etc. Et il a dit, donnez-moi le prix de la démolition et j'arrange tout ça. Sophie Ricard, une architecte, travaille avec Patrick Bouchain, est allée s'installer à Boulogne-sur-Mer dans un appartement, dans une des maisons qui était abandonnée, en fait, et a commencé à travailler avec tous les habitants sur comment ils voyaient l'avenir de chaque... C'était un pavillonnaire, en quelque sorte, hein. Comment ils voyaient le devenir de chacune de leurs maisons et aider à ce que ça puisse se réaliser. Mais il y a une volonté, je dirais, d'ordre politique, là, qui aide les habitants à reprendre confiance et à penser qu'ils peuvent le faire. J'ai fait pour la Fondation Abbé Pierre une étude sur la place des SDF dans la ville. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai compris en faisant ça, je savais un peu parce que j'ai beaucoup travaillé en termes de récits de vie avec des SDF et des personnes en très très grande difficulté. La question n'est pas celle des SDF, c'est pas un groupe social, les SDF. C'est pas une classe sociale non plus, c'est vous et moi à qui il est arrivé des ennuis suffisamment costauds pour se retrouver dans cette situation-là. Donc on ne peut pas en faire un groupe, et en plus quand on en fait un groupe, c'est-à-dire qu'on leur propose des unités d'hébergement d'urgence, on les met tous ensemble et c'est une catastrophe, parce que si vous étiez SDF, est-ce que vous auriez envie d'être avec d'autres SDF pour vous sortir d'affaires? Et les riverains se mettent à hurler, voilà, donc agir comme ça, faire des douches publiques mobiles qui, quand elles arrivent dans un quartier, montrent toute une file de gens de SDF qui attendent de prendre la douche, qui les surexposent pendant ce temps-là. Non, ce qui paraissait évident, c'est que pour les SDF qui en étaient les indicateurs les plus visibles, parce qu'ils sont les habitants permanents de l'espace public, ça montrait que l'espace public avait perdu toute son hospitalité et toutes ses interstices aussi. Voilà. Et que travailler sur l'espace public et son hospitalité pouvait profiter pas seulement aux SDF, mais à tous ceux qui s'appellent des riverains, enfin à tout le monde. Ce que j'ai fait à Marseille, qui n'a pas été fait non plus, c'est un projet pour la rue d'Aubagne, qui était un projet sur l'espace public. J'ai proposé qu'on recopie la rue d'Aubagne sur la rue d'Aubagne, c'est-à-dire qu'on fasse toutes les réparations normales qu'on fait dans une rue, et que tous les rez-de-chaussée qui étaient des commerces avec une proposition merveilleuse à l'espace public que font les commerces quand ils font des belles boutiques, des belles devantures, des beaux étalages, etc., de simplement les aider quand un truc est abîmé, le refaire, reprendre tous les nuanciers, les graphismes des boutiques reprendre tout, faire de la petite réparation urbaine, les gouttières, les coins de les angles de trottoir, etc. Et ça, ce sont des actions tout à fait simples, mais qui auraient donné un coup d'éclat en très peu de temps, etc., à cette rue qui est à la fois un joyau de la ville, puisque c'est une des rares rues qui ne soit pas la zone piétonnière européenne qu'on retrouve partout, avec des commerces qui sont Zara, Zappa et compagnie, mais qui étaient que des boutiques, certes africaines, indiennes, etc., mais toutes des boutiques originales, voilà, et qui étaient, je sais pas quoi, les Japonais viennent visiter ça. Mais pour Marseille, c'est leur quartier pauvre, et tout ce qu'ils voudraient, c'est arrêter ça. Et si c'était possible de faire une rénovation urbaine à cet endroit-là, ce serait pas mal vu, quoi. Bon, je dis pas de la municipalité actuelle, mais laisser les immeubles se délabrer, comme ça a été le cas, après, on dit, ah ben, ils s'effondrent, on va enlever tout ce qui est là et on va mettre un bâtiment neuf. Voilà. Donc, c'est des actions qui soient au plus près de ce qui se passe, quoi, simplement.
C'était Chantal Descmine, architecte urbaniste, auteur d'un manuel pour une hospitalité, l'espace public, dans le cadre de Demain, l'espace public, cycle de rencontres, proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, Zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter l'entretien réalisé avec Mathilde Tournol-Duclos, architecte, qui était également invitée lors de cette rencontre. Vous pouvez aussi écouter l'enregistrement intégral de cette conférence-discussion. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture.